présenter, Cyril, avant que l'on reparte sur des contenus par rapport au laboratoire espace-cerveau.
Super.
D'assurance, à qui?
Il faudra.
La question de quoi est-elle liée à l'enregistrement?
Ça aide.
Ça aide à la compréhension de chacun.
Voilà, donc est-ce que si c'est motivant pour ça, oui, sinon plutôt pas?
Plutôt oui.
D'abord, remercier, en effet, comme le disait Nathalie, juste avant les trois invités de cette station. D'abord, vous, M. Abderrazak El-Abani, juste pour rappeler que vous êtes professeur en géologie et de sédimentologie à l'Université de Poitiers, si je ne me trompe. Je vais dire deux mots qui enfoncent des portes ouvertes. Bien m'en excuser, mais ça permet au moins, celui qui accepte de jouer ce rôle-là, permet aussi de briser un peu la glace et d'étendre tout le monde. Comme ça, les conversations pourront ensuite être plus libres. En fait, une de vos découvertes, une grande découverte avec votre équipe en 2008 au Gabon, qui a été publiée dans la presse, dans la presse grand public, on va dire, où vous analysez un groupe de fossiles sur lesquels vous trouvez des organismes pluricellulaires macroscopiques, c'est ce qu'on dit dans la presse plus grand public, et qui repousse le curseur du début de la vie de, je crois, quasiment 1,5 milliard d'années. En tout cas, du coup, on remonte à 2,1 milliard d'années, ce qui est vertigineux pour nous pauvres êtres humains un peu habitués à ce genre d'échelle. Et puis ensuite, vous avez travaillé, c'est ce qui intéressera aussi le laboratoire, vraisemblablement, sur les variations de la teneur en oxygène de l'atmosphère de la Terre, évidemment, au cours d'une période qui varie entre 2,3 et 2 milliards d'années, si mes notes sont justes. Et peut-être juste dans les interviews que vous donnez, dans ce qui est cité de vous, il y avait une chose qui me semblait résonner particulièrement avec le travail de ce laboratoire et des artistes. Vous faites valoir que ces fossiles étaient là, qu'il fallait juste les regarder, et qu'en gros, vous dites en creux que c'est le désir et le regard du regardeur, pour le coup, qui vient révéler la chose. Donc, je pense que c'est précisément ce que je regarde. Je continue les présentations ou je continue? Donc j'avais pris un ordre alphabétique. Ensuite, Emmanuel Ecocha. Vous êtes philosophe et maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais notamment très récemment La vie des plantes, une métaphysique du mélange, hein, qui est paru chez Payot, pour laquelle vous venez de recevoir le prix des rencontres philosophiques de Monaco. Que dire, déjà le titre indique quasiment votre propos, qui à l'intérieur du labo peut nous être déjà familier, puisque vous allez sans doute croiser les théories de Pierre Montebello, avec qui vous avez parlé au déjeuner, donc peut-être que vous ferez part de vos points communs ou de vos divergences. Mais en tout cas, le signifiant, s'il faut retenir un signifiant de votre travail, serait peut-être le signifiant de mélange. Vous seriez d'accord avec ça, je peux me lancer là-dessus. Et ce qui indique aussi que ce que vous venez proposer, c'est une nouvelle lecture du monde, qui décentre, comme Montebello l'a fait dans plusieurs sessions précédentes. Une nouvelle lecture du monde qui décentre l'homme de la réalité. Et vous imitez, vous l'avez, tout le monde l'a compris, puisque j'ai dit le titre, vous imitez, vous, à ce centre, plutôt les plantes. Hein. Mais ce serait peut-être sujet à discuter, c'est peut-être ce dont il faudra discuter. c'est dans ce nouvelle lecture du monde, dirais-je, que peut-être il y aura un point de rencontre avec Michel Visson, qui est le troisième invité de cette session. Vous êtes, c'est écrit partout, dès qu'on fait des recherches sur vous, vétérinaire de formation, je vais le dire, il me semble que vous en jouez dans un certain nombre d'interviews. Mais vous êtes responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales, Michel Visson, oui, je viens de ça. C'est-à-dire que vous étudiez en gros les origines de la vie sur Terre. Pour l'expliciter comme ça, encore une manière d'enfoncer quelques portes ouvertes, on pourrait dire que c'est de s'attacher à savoir quels sont les ensembles, quels faisceaux ou quels buissons, pour reprendre votre métaphore, de contingence. On a parlé lors du déjeuner de cette question du contingent, et je trouve qu'elle était bienvenue dans votre bouche, parce qu'il me semble que c'est ce sur quoi vous portez votre étude. Quels buissons de contingence conduisent à ce point qui permet l'émergence de la vie? Est-ce que ce point, il est vraiment localisable? C'est une question alors que je vous adresse. Est-ce que la tentative d'aller chercher ce point n'est pas déjà une représentation et un mythe? Et puis, vous travaillez aussi sur, c'est ce qui importe beaucoup à ce laboratoire, sur les réseaux et les liens, depuis votre discipline, entre les comètes et notre atmosphère. Et je crois que certains ont très à cœur de vous interroger et pour que vous nous éclairiez la conspiration. Et Pierre Montebello, je représente Pierre Montebello, qui est avec nous depuis quelques laboratoires. Pierre est philosophe et professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Toulouse. C'est vrai qu'il est l'auteur d'un ouvrage que nous avons beaucoup travaillé et beaucoup discuté, Métaphysique cosmomorphe, la fin du monde humain, qui est paru en 2015 aux presses du réel. Ça va, Pierre. De toute façon, c'est vraiment la conversation, les échanges indiqueront.
Merci, Cyril. Je propose que par ailleurs les participants, lorsqu'ils interviennent, présentent, puisqu'on ne va peut-être pas faire un tour de l'ensemble de façon exhaustive, et pouvoir amorcer donc ce temps d'échange qui sera complété d'un autre type d'échange à partir de 18h30 à l'auditorium de Le Rappel. Même si aujourd'hui, à ce moment précis, le public est bienvenu, et comme vous l'avez compris, mais d'une manière différente que dans un auditorium où on sera dans une frontalité bienveillante, mais différente en tous les cas, et de par la forme et les contenus. Je souhaiterais vous dire deux petits mots avant même de nous lancer, pour dédier, si vous le permettez, cette station du laboratoire Espace-Cerveau à Xavier Drou, le directeur, co-directeur du consortium qui nous a quittés la nuit d'avant. Je dirais, d'une certaine manière, sans vouloir trop évoquer ce qu'était Xavier Drou pour l'ensemble de l'art contemporain en France et au plan international, rappeler qu'il fut le complice de toujours de l'IAC, du Nouveau Musée, de Jean-Louis Mauban jusqu'à moi-même, à travers principalement la question des publications, des éditions. C'est pas un hasard absolu qui nous ramène via les presses du réel à Pierre Montebello. Et tout ce travail accompli nous porte. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Mais cependant, je souhaite, si vous êtes tous d'accord, de dédier cette station. Voilà. Donc, sur ce, je propose qu'on fasse comme on a dit. Donc, on passera le micro au fur et à mesure. Mais c'est Hélène Mézel qui a beaucoup déjà porté notre journée en transmettant les éléments de la conception de l'exposition. Donc de Jardin Infini, et nous lui avons demandé, afin qu'on puisse rester dans la notion d'œuvre et de tressage autour de la question non pas d'art et science, mais de l'art, et en même temps des propos de nos penseurs et de nos chercheurs, avoir une trame, je dirais plus qu'un fil rouge, à travers une sélection d'œuvres qu'on a opérées ensemble, et qui sont articulées autour de 6, je dirais pas thèmes, mais axes. Peut-être peut-on les évoquer, ces 6 axes. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à les... Peut-être peux-tu les citer, Cyril. Et puis ensuite, on demandera à Hélène de partir, non pas du sol et de la terre, mais des premières œuvres abordées dans ces axes. Alors, là, on les voit.
Bah, je les ai sous les yeux.
Et là, est-ce que tu...
Oui, je les ai sous les yeux, je vais les introduire.
Tu peux les...
Bon, bonjour à tous à nouveau pour les nouveaux venus, je me présente. Donc, Hélène Mézel, je travaille au Centre Pompidou et j'ai contribué à l'élaboration de l'exposition Jardin Infini avec Emma Lavigne et la directrice. Donc, je récapitule les 6 axes qu'on a extraits de l'exposition. Exobiologie et jeunesse du vivant, à rebond des classifications du vivant et métamorphose végétale, écosystème, en immersion, les œuvres les plus immersives de l'exposition et plus environnementales, devenir plante et enfin rituel cosmomorphe. Alors, est-ce qu'on repart